J'aimerais vous donner ce matin un message au sujet d'un verset qui me questionne depuis un moment. Mais avant de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et ce qu'il m'a fait travailler de manière très pratique, j'aimerais prier. Seigneur, je voudrais juste te dire merci. Merci pour ces chants qui nous ont permis de nous approcher de toi. Seigneur, c'est vers toi qu'on veut avoir les yeux tournés, on l'a chanté. Et c'est toi qui comptes ce matin, en fait. Quel que soit le canal, quel que soit le robinet, c'est l'eau qui coule. Et nous voulons vraiment que ce soit l'eau de ton esprit qui vienne nous abreuver, chacun de nous. Amen. Je suis désolée pour ma voix. Je travaille dans un bureau où il fait très chaud et il y a des ventilateurs. Et voilà. Tant qu'il fera chaud, j'aurai cette voix-là, je crois. Donc, essayez de passer au-dessus de ça et veuillez m'excuser dès le départ. J'aimerais donc lire avec vous un passage un petit peu énigmatique de l'apôtre Paul. Vous avez vu mon titre, « Oser la pratique du miroir ». Je vais donc parler d'un verset très particulier qui est écrit par Paul à une église, l'église de Corinthe. C'est dans sa deuxième lettre, c'est un verset qu'on trouve dans donc 2 Corinthiens chapitre 3, on va le lire tout à l'heure. Paul est un théologien incroyable en fait. Hein. Paul est un enseignant hors pair, mais comme tous les théologiens, il fait des phrases très très longues. Alors je vais essayer d'en tirer quelques idées. La chose juste exceptionnelle avec Paul, c'est qu'il utilise des images tout le temps. Et nous allons parler ce matin donc de l'image du miroir qui va nous permettre d'essayer de comprendre un peu ce que Paul veut nous dire. Dans ce passage qui m'intéresse ce matin, Paul écrit aux chrétiens et il va parler de manière très concrète du témoignage que nous avons en tant que chrétiens. Et pour lui, ça c'était un petit peu avant le passage qui m'intéresse, pour lui nous sommes comme des lettres de Christ, des lettres écrites par Christ pour ceux qui ne vont pas lire ce texte biblique, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous voyez, on est donc ce type de lettre pour être quelque part une version en chair et en os de ce texte biblique. Mais voilà, dit Paul, parce que Paul ne mâche pas ses mots, souvent ces lettres sont tachées. Elles sont difficilement déchiffrables, comme si, encore une image, nous avions sur le visage un voile. Et ce matin, si j'étais venue avec un voile, alors le voile qui voile vraiment mon visage, je pense que ça aurait été compliqué pour vous. Vous voyez les masques, on a déjà eu du mal à se comprendre. Alors un voile complet, effectivement, ça ne permet pas trop de déchiffrer tout ce qui est dit et de manière correcte Christ. D'où la proposition très ingénieuse de Paul, c'est de nous faire prendre conscience de ce miroir. Et comment prendre conscience d'un miroir, d'un voile? C'est à travers un miroir. Et voilà ce qu'il dit, on va le lire ensemble, pour vous qui avez vos Bibles, sinon je l'ai affiché dans la version, je crois, du Summer, de Corinthiens 3, les versets 16 à 18. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Avez-vous des miroirs chez vous? J'imagine que oui. Hein. Êtes-vous du genre à ne pas sortir sans un petit coup d'œil devant le miroir, histoire de vérifier que vous n'avez pas un bout de feuille de salade entre les dents ou un épi digne d'Elvis Presley? Vous, vous êtes probablement regardé dans le miroir ce matin. Moi, je l'ai fait par pitié pour vous. J'aurais pu aussi, pour concrétiser mon message, venir avec ma tête du lever du matin et vous auriez compris ce que c'est que d'avoir le miroir. Le miroir, en réalité, est extrêmement présent dans nos vies. Il y a même un stade du développement psychique de chacun de nous qui s'appelle le stade du miroir, qui concerne, alors ça, toutes les familles qui ont des petits entre 6 mois et 1 an connaissent ce stade du miroir. Vous savez, on met un point rouge sur le nez et quand l'enfant se regarde dans le miroir, au début, il va toucher le nez en face et pas le sien. Le stade du miroir, c'est le stade de la découverte de « je ». Tiens, je suis, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ce qui m'entoure. C'est ce stade d'individuation, comme on l'appelle. Donc ce stade du miroir fait vraiment partie de nos vies, nous l'avons tous vécu. Et j'espère qu'on l'a tous bien réalisé, parce que c'est important de savoir qui on est. Depuis une trentaine d'années, on parle également, et peut-être que vous en avez bien entendu parler, des neurones miroirs. Et 30 ans, c'est pas si vieux en fait. Et on s'est aperçu que dans notre cerveau, il y avait des neurones très spécifiques qui nous permettaient d'imiter les actions d'autrui, qui nous permettaient de déchiffrer les intentions de l'autre, même les émotions. Ces neurones miroirs vont être très utiles pour l'empathie, pour la sympathie. Vous vous rendez compte comme on est complexe. Cet être humain que certaines disent être tiré du hasard, franchement, on est vraiment créé de manière complexe. Les neurones miroirs nous permettent de vivre ensemble. Parce que quand je vois l'autre, et c'est ce que va faire un enfant, il va travailler par mimétisme, je vais avoir envie de reproduire la même chose. Quand je vais voir une émotion chez l'autre, je vais avoir envie d'avoir la même. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et rien de nouveau, en fait. Et nous, ça fait 30 ans seulement qu'on découvre ça. On peut aussi parler de l'effet miroir. Lorsqu'une personne en face de nous agit d'une certaine manière, qui nous renvoie à notre propre réalité. Ça, c'est quelque chose que moi, je perçois énormément dans mon travail, puisque je travaille en EHPAD, en service Alzheimer. L'effet miroir est très violent. L'effet miroir fonctionne de manière positive ou négative, mais très souvent de manière négative, justement. C'est-à-dire que l'autre me renvoie qui je suis et la part de moi que je n'aime pas. Et il est bien là le problème. Quand je me regarde dans le miroir, je suis très rarement satisfaite. Sauf que le miroir n'est pas le problème. Le problème, c'est moi. Le miroir, en réalité, c'est la solution. La solution pour que je ne sorte pas avec ma feuille de salade entre les dents. Pour que je ne sorte pas avec mon épi sur la tête, voilà. Alors ça, ce sont des petits exemples qui, au pire, nous apporteront un grand moment de solitude, en feront rire certains, mais il n'y a rien de grave. Par contre, le manque d'amour que je reflète parfois, l'incapacité à pardonner, l'égocentrisme dont je fais trop souvent preuve, eux ne sont pas risibles. Ils sont comme des voiles qui empêchent le monde de voir le Dieu de grâce dont nous parlons. Parce que oui, nous avons été créés à l'image de Dieu pour être ses reflets, pour être ses représentants, pour être ses ambassadeurs, pour être ses lettres, pour être son parfum de bonne odeur. Utilisez l'image que vous voulez, il y en a énormément dans la Bible. Mais est-ce que nous réalisons l'immense confiance que Dieu nous fait ? De nous envoyer le refléter. Une immense confiance et puis une immense responsabilité qui en découle parce que nous devons accepter de faire face au miroir pour nous laisser transformer à son image. C'est ça, ôter le voile, et ça c'est notre job, de nous laisser transformer. Osons la pratique du miroir. C'est le conseil de Paul. Des fois, on ne se regarde pas dans le miroir parce qu'on n'a pas envie de voir à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est la politique de l'autruche. Et Paul nous invite vraiment à oser le miroir pour voir le voile, le mien. Chacun de nous, on en a un peu particulier. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Il est là le mot important. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Transformés par la pratique du miroir. En termes théologiques, on dirait, ou en termes de doctrine, on parlerait de sanctification. Progresser spirituellement, être plus mature, passer du stade de l'enfant au stade adulte, bref, grandir. Et grandir fait partie de la vie. Heureusement que nous ne restons pas toute notre vie à essayer de voir si c'est mon nez ou pas le mien. La sanctification, c'est aussi grandir spirituellement. Et ce n'est pas destiné à certains, parce que grandir, c'est le travail de tous. Alors je vous pose cette question que je me pose aussi, bien évidemment. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler en toi ? Je vais me permettre d'utiliser le « tu », j'espère que ça ne vous choque pas. Qu'est-ce qu'il cherche à transformer en ce moment en toi, en moi, pour que tu progresses ? Qu'est-ce que Dieu cherche à transformer en moi pour que je progresse ? Pour que le voile disparaisse peu à peu, pour que la lettre devienne plus lisible, comme un éclat qui ne cesse de grandir. Vous avez déjà vu à des inaugurations, quand il y a des fois une statue ou une peinture ou une sculpture ou autre, elle est couverte par un drap et tout le monde attend que le drap s'enlève pour voir apparaître l'image, l'œuvre en entier. Je crois que c'est un peu ça que Dieu veut faire avec nous. Alors gardez cette question dans un coin de votre tête. On va essayer à la fin de ce culte d'y esquisser une sorte de réponse, chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu cherche à transformer en toi en ce moment ? Mais je voudrais vous proposer de voir comment fonctionne ce miroir dont Paul parle. Et la première chose que j'aimerais rappeler, c'est que toute tentative de vouloir par nous-mêmes ôter le voile, par nos propres efforts, toute tentative de ce style est vouée à l'échec. Je ne peux pas m'améliorer toute seule. C'est ce que Paul essaye de dire, c'est ce qu'il a dit quelques versets plus tôt, je vous lis le verset 14, c'est dans l'union avec le Christ qu'il est ôté, le voile. Ou encore, on l'a lu tout à l'heure, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Attention, il, c'est pas Moïse. Il, c'est le Seigneur, et Paul dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand on lit vite, on a l'impression que quand Moïse s'approchait, il ôtait le voile. C'est le Saint-Esprit qui ôte le voile. C'est l'œuvre de Dieu de nous libérer de ce voile. Et Paul va le dire plusieurs fois de manière très différente dans cette épître aux Corinthiens. Je ne peux pas par moi-même me transformer. Je ne peux pas progresser par moi-même. Et je vais vous lire un extrait d'un livre qui a été écrit par Jerry Bridges dans son livre « À l'école de la grâce », pour ceux qui connaissent peut-être. Et voilà ce qu'il raconte. « Alors que je me trouvais un jour assis dans la salle d'attente d'un médecin, mon regard a été attiré par une belle reproduction, alors je vais vous laisser essayer de l'imaginer, la reproduction d'un homme en train d'être sculpté. La sculpture était achevée jusqu'à mi-hauteur des cuisses. Et le travail accompli montrait un homme très robuste, musclé, vous voyez le style de physique dont tous les hommes rêvent. Cependant, ce qu'il y avait de plus frappant dans cette image, c'est que l'artiste avait placé le marteau et le burin dans les mains de l'homme qui était en train d'être sculpté. Et je me demandais quel message l'artiste avait voulu transmettre. Peut-être essayait-il de peindre une image de l'homme qui s'est, soi-disant, fait tout seul. Le self-made man. On en parle beaucoup en économie, en entreprise. Et moi, je trouve que c'est exactement le message de la société. Réalise-toi. Mais c'est juste impossible. Et ça met un poids de responsabilité sur nous qui est terrible. Toutefois, en étudiant d'un peu plus près la peinture, ça c'est l'auteur qui continue, j'ai été subjuguée de constater à quel point l'auteur avait bien représenté la manière dont de nombreux chrétiens tentent de vivre la vie chrétienne. Nous essayons de nous changer. Nous prenons dans nos propres mains ce que nous croyons être les outils d'une transformation spirituelle, et nous tentons de nous sculpter en de robustes spécimens, semblables au Christ. Or, et je finis là la citation, la transformation spirituelle est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui, le maître sculpteur. Vouloir ôter le voile par nous-mêmes, c'est pratiquer l'autosculpture. Or, l'autosculpture est un art dangereux, parce qu'il revient à nous transformer à notre propre image, c'est-à-dire enlever ce qu'on n'aime pas et garder le reste. Et parfois, on y met tellement d'efforts dans l'autosculpture, vraiment, sincèrement. Et alors, quand les résultats ne sont pas là, on est juste tellement déçus. Et on a des phrases, vous savez, de ce genre, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec tous les efforts que je fais ?» En fait, c'est une mauvaise compréhension des intentions de Dieu pour nos vies. Parce que l'autosculpture a quelque chose à voir avec la théologie du mérite. Or, on l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté, on l'a prié. Nous sommes sous la grâce. Et la théologie du mérite n'est pas biblique. S'autosculpter, c'est rechercher sa propre gloire, pas la gloire de Dieu. C'est se regarder dans le miroir comme Narcisse, pour ceux qui connaissent. C'est pratiquer le bodybuilding spirituel. Ne voir que ce qu'on a envie de voir, ne changer que ce qu'on a envie de changer. Se montrer parfait. Et des fois, quand on est chrétien, on a envie de montrer aux autres une image parfaite de nous. On fait de l'autosculpture. En fait, devenir mature, c'est tout l'inverse. Devenir mature, c'est laisser Dieu sculpter ma vie comme il en décide. Devenir mature, c'est laisser Dieu faire les changements que lui a décidés. C'est accepter, et ça va être le chapitre 4 de Paul, et moi je vous invite vraiment à lire cette lettre, elle est juste incroyable. C'est accepter d'être des vases d'argile, tellement fragiles. On n'aime pas ce qui est fragile. Mais Dieu nous demande d'être fragiles pour que sa gloire soit encore plus visible. C'est un autre type d'effort qui nous est demandé, mais tellement plus conforme à son amour pour nous. Alors je l'ai lu tout à l'heure, je vais vous le relire. Là où est l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. Vous allez me dire quel rapport entre progresser, devenir mature et la liberté. Eh bien justement, je crois que ce que Paul nous dit, c'est qu'il y a vraiment un rapport entre expérimenter la liberté en Christ et se laisser transformer. Et ma prière, c'est que chacun de nous, et je m'englobe vraiment dedans, nous comprenions toujours un peu mieux ce qu'est la liberté en Christ. Parce que la liberté en Christ n'est pas faire ce que je veux. La liberté en Christ, c'est le laisser me transformer pour que je le reflète de mieux en mieux. Et pour que je sois quelqu'un de libre de ce que Dieu a ôté. Et ça, c'est un travail vraiment, je crois, qui va durer toute une vie. D'ailleurs, en parlant d'autosculpture, qui est un peu un art qu'on maîtrise parfois, il y a un autre écueil qui nous guette facilement. Je voudrais juste le citer là. C'est celui de prendre le burin et le marteau et puis de sculpter l'autre. Vous savez, celui qui est à côté de nous, parce qu'il n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on aimerait. Alors on se dit, tiens, non, c'est ça que le Seigneur veut pour toi. Et on taille. Dans le langage courant, quand on taille quelqu'un, ça blesse. Et on blesse. Quand on veut sculpter l'autre, on blesse. Parce que le maître sculpteur, c'est Dieu. Et que le Seigneur nous aide vraiment ce matin à laisser le burin et le marteau dans les mains de Dieu et pas dans les nôtres, parce qu'on ne va pas forcément tailler là où il faut. Quelle place laissons-nous à l'Esprit du Seigneur? Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit? Ce matin, dans plusieurs de vos prières, de nos prières, dans plusieurs de nos chants, nous l'avons cité et ça m'a profondément réjouie. Parce que parfois, j'ai le sentiment qu'on a tendance à l'oublier. Oui, il existe, il fait partie de cette Trinité. Mais on aime parler de Dieu le Père, le Créateur, celui qui a tout entre ses mains. On aime parler de Jésus qui est allé sur la croix, qui est mort pour nous. On a raison, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on a tort. Mais parfois, notre théologie est un peu déséquilibrée. Alors, le Saint-Esprit en nous, ok, mais vous connaissez tous ces versets de Paul. On peut l'attrister. On peut le mettre un petit peu de côté. Est-ce que notre théologie, dans le quotidien, laisse autant de place à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Je crois que si nous cherchons, et si vous cherchez intentionnellement à être à l'écoute du Saint-Esprit dans votre quotidien, alors oui, vous allez laisser, je vais laisser le marteau et le burin dans les mains de Dieu. Et nous avons tous besoin du Saint-Esprit tous les jours pour faire des progrès. C'est lui qui va ôter le voile. C'est son job. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Je vais vous envoyer un consolateur, mais pas que consolateur, hein, un guide. Quelqu'un qui va te dire attention. C'est lui qui ôte le voile, c'est pas moi. Et je peux l'avoir là et ne pas l'écouter. Vous savez, des fois, on prend le téléphone, on parle, puis on raccroche, puis on dit, elle ne m'a pas répondu. Et c'est un peu ça dans nos prières parfois. Merci, 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 Seigneur, viens, merci. Et on raccroche. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour prendre conscience des progrès à faire et arrêter de nous voiler la face. Là, le jeu de mots était facile. Devenir mature relève de l'action du Saint-Esprit. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit. Parce qu'en aucun cas, cela signifie que je n'ai rien à faire. Quand mon fils était petit, qui devait avoir 6 ans, nos voisins sont turcs et on est très amis. Et Yacine venait manger chez nous, vice-versa. Pierre préférait aller manger chez Yacine parce qu'il aime beaucoup les repas turcs. Donc Yacine venait manger chez nous régulièrement. Et on priait avant de manger et Yacine avait dit une fois, « Moi aussi, je veux prier. » Donc on avait laissé prier Yacine et qui avait dit à Pierre, « Nous, on doit prier 5 fois dans la journée. » Et Pierre lui a dit « Ah bon ?» Et bon, 6 ans, hein, je vous redis l'âge quand même. Hein, « Ah bon, tu dois prier 5 fois. » Et Yacine lui dit ce qu'il doit faire. Et Pierre lui dit avec toute sa spontanéité « Dis donc, t'as pas de bol, parce que nous, tout est gratuit. » Ça, c'était dit. Mais vous voyez ce que j'essaye de vous dire. C'est que c'est pas parce que Dieu fait sa part que nous n'avons pas de part à faire. Nous n'avons pas à rester passifs dans le domaine de la croissance spirituelle. Oui, des fois, Dieu me dit, tiens-toi tranquille et regarde l'œuvre parce que c'est moi qui vais te délivrer. Ça, c'est à Pi-Aïrot, c'est le peuple d'Israël. Oui, mais dans l'œuvre de sanctification, dans l'œuvre de progrès avec Dieu, nous avons notre part à faire. Imaginez, en ce moment, vous avez peut-être un jardin et vous avez peut-être planté vos plantes. Il faut les arroser. Et vous ne pouvez pas juste dire « Merci Seigneur pour ton soleil et pour ta pluie ». Ça pourrait être pire encore. « Merci Seigneur, j'ai un magnifique terrain, merci pour ton soleil et ta pluie, je te fais confiance, mais moi je ne mets rien dans la terre, ça va bien pousser ». Vous voyez comme c'est ridicule. Bien, c'est pareil en fait dans nos vies spirituelles. Des fois, on s'inquiète pour la part de Dieu et puis pas pour la nôtre. Vous ne trouvez pas qu'on est très bon là-dedans ? On a une fâcheuse tendance à s'inquiéter pour ce que Dieu va faire. Mais nous, on a un peu la tête dans le guidon des fois. La grâce a un prix, on l'a dit tout à l'heure, elle s'appelle la croix. Ce n'est pas moi qui l'ai payée, ce n'est pas vous, aucun de nous ne le pourra jamais. Mais cette grâce n'est pas une grâce à bon marché. Et ce n'est pas une raison parce que Dieu a tout donné. Ce n'est pas une raison pour juste accepter. Oui, c'est vrai que c'est essentiel, mais des fois on s'arrête à ça. Et ce n'est pas une raison pour juste accepter qu'il soit mort pour moi et ne rien faire en retour pour lui offrir notre reconnaissance, ne rien chercher à vivre, ne rien chercher à expérimenter, ne rien chercher à refléter. Imaginez, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs d'Europa Park ici, vos petits-enfants peut-être. Imaginez que vous ayez un ticket pour un centre comme ça, un centre de loisirs type Europa Park. Imaginez que je vous offre un billet pour le Louvre, et que vous soyez très fiers, très heureux d'y aller, et vous rentrez dans le Louvre, vous rentrez dans ce centre de loisirs, et vous vous asseyez juste à l'entrée, puis vous buvez un cocktail, jusqu'à la fin, à l'heure de fermeture, en disant, ouais, trop bien, je suis là, c'est super, ouais, c'est... Sauf que quand on vous demandera, au fait, Europa Park, c'est bien, vous risquez peut-être de dire, bon, en fait, il n'y a rien à vivre, il n'y a rien à voir. Vous voyez ce que j'essaye de dire, mes images sont très petite par rapport à la réalité en Christ. Mais des fois, on accepte le ticket d'entrée. Puis on reste là, assis sur le banc. Et puis, les gens nous disent, qu'est-ce qu'il y a à vivre avec Dieu, au fait ? Ben, pas grand-chose. Oh, c'est cool, par contre. Hein. Le Seigneur a tout fait pour moi. Je provoque un peu, hein. J'en suis consciente. Mais je le fais parce que moi, ça me bouscule aussi, en fait. La transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et cette dernière partie que je voulais aborder avec vous, c'est ma part. Et ma part, c'est celle de faciliter l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous invite à faciliter l'action du Saint-Esprit en acceptant de nous laisser transformer. Et plus nous prendrons du temps pour scruter le caractère de ce Dieu d'amour dont la Bible me parle, plus je vais voir, plus vous allez voir, plus nous allons voir ensemble les progrès qu'il y a à faire. Ça, c'est l'œuvre du miroir. Alors, qu'est-ce que c'est que le miroir? Je ne vais pas vous donner de réponse, en fait. Hein, parce que le miroir, ça peut être tout. Ça peut être un texte biblique, essentiellement. Ça peut être une prière, ça peut être une écoute, mais ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une épreuve. Moi, je ne sais pas. Dieu agit de tellement de manières différentes. Dans la Bible, il utilise même un âne pour parler à quelqu'un. Donc, ne me demandez pas ce qu'est le miroir. Laissez le Saint-Esprit vous le montrer. Le théologien Grudem définit ainsi la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire devenir plus mature, regarder le miroir pour ôter le voile, c'est une œuvre progressive, à la fois de Dieu et de l'homme. Bien sûr, Dieu fait la plus grande part, hein, ça on est d'accord. Une œuvre progressive qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché. Pas libres pour nous-mêmes, mais libres à l'égard du péché. Elle est là, la liberté, vous voyez ? Et de plus en plus semblable au Christ au sein même de notre quotidien. Et je crois que c'est là une des clés. Je crois que vraiment, nous devons chaque jour laisser le Seigneur, le Saint-Esprit travailler en nous pour nous rendre capables d'avoir une vie qui plaise à Dieu. Souvent, on demande à Dieu qu'il nous apporte le bonheur. Il le fait. Mais vous connaissez ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous ne sommes pas créés pour être heureux. Nous avons été créés pour rendre Christ heureux. Et alors, oui, nous y serons parce que nous avons un Dieu d'amour. Et ça c'est sa part et ça, nous n'avons pas à en douter. Mais trop souvent, nous croyons que nous avons été créés pour être heureux. Nous nous marions pour être heureux. Non, en fait, le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux. Ça change la donne. Nous avons été créés pour rendre Dieu heureux et Dieu nous rendra heureux en retour, ça c'est sûr. Le Saint-Esprit ne fait pas le travail à ma place. Il me rend apte à faire ma part et ma part, elle peut être, il y aura autant de réponses que de personnes ici. Résister à la tentation, tentation de me décourager, tentation de critiquer, tentation de mépriser, tentation de laisser tomber, tentation de... Voilà, je ne sais pas, il y en a tellement, en fait, de tentations. Ma part, c'est celle d'obéir. Ma part, c'est celle peut-être de supporter. Ma part, c'est peut-être celle de me relever quand je suis tombée. Parce qu'on a un Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Prendre position, persévérer, m'humilier, reconnaître mes torts, pardonner. Quelle est ma part? Qu'est-ce que Dieu veut transformer en moi aujourd'hui? Alors oui, il y a aussi les épreuves de la vie. Ça aussi, ça nous transforme. Je crois que c'est un auteur qui le dit et c'est pas moi. La croissance de la foi peut rarement faire l'impasse sur les difficultés de la vie. Elle fait rarement l'impasse sur les plaies et les blessures. Et là aussi, Dieu veut transformer des choses. Peut-être notre confiance malgré tout. Je crois en toi malgré. Viens au secours de mon incrédulité. Ça aussi, c'est devenir mature. Danny Amo a écrit un livre qui s'appelle « La maturité spirituelle ». Et pour lui, devenir mature, c'est la dernière citation que je vais utiliser, c'est être dépouillé de tous les enfantillages qui nous empêchent de devenir adultes, humainement et spirituellement parlant. Et moi, j'aime bien ces deux mots ensemble. Devenir mature dans notre spiritualité, mais aussi dans notre humanité. Devenir mature relationnellement. Devenir mature émotionnellement. Des fois, on est des big boss en spiritualité, mais alors très nul en tant qu'humain. Dieu s'est incarné. Donc les deux sont importants. Il y a des livres particulièrement bienfaisants dans ce thème qui sont des livres de Peter Scazzero, si vous connaissez, dont un qui s'appelle « Les chemins vers une spiritualité émotionnellement saine ». Et je vous le conseille vivement. Dany Hameau donne de nombreux exemples d'enfantillage. Et vous allez voir qu'ils sont faciles à transposer, autant du côté humain que du côté spirituel, c'est-à-dire d'avoir une deuxième lecture, en fait. Voilà ce qu'il dit. L'enfant, il va parler un petit peu de l'enfant. L'enfant se dispute facilement. Il est souvent centré sur lui-même. Il ne donne pas toujours naturellement. C'est un apprentissage. Il peut être impatient. Tout de suite, moi, je veux ça. Il est parfois jaloux. Il va piquer le jeu de l'autre. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça vous parle, ça, c'est sûr. Il peut être grincheux. Il lui arrive de bouder, d'être rancunier, de pleurnicher pour peu de choses. Il ne connaît pas toujours ses limites. Il a une nourriture limitée, sélective. Mais nous, on est comme ça des fois au niveau spirituel. On lit que certains passages dans la Bible, c'est ceux qui nous font du bien. On chante que certains chants, c'est ceux qui nous font du bien. Une nourriture sélective. Seigneur, montre-moi mes enfantillages, tout en m'aidant à garder un cœur d'enfant. Parce que l'enfant, sa force première, c'est de faire confiance à son père. Mon père, c'est le plus fort, c'est lui qui va venir à la récré. Cette confiance, quand Dany Hameau utilise cette image, dépouiller des enfantillages, nous, souvent, on jette l'eau du bain avec le bébé, c'est-à-dire, ah ben, il ne faut pas être enfant, mais si, c'est une image. Vous voyez combien c'est complexe et combien les mots ont une importance. Gardons un cœur d'enfant qui croit, qui espère, qui a confiance en son père, qui est prêt à se jeter dans ses bras dans la piscine alors qu'il ne sait pas nager. Ça, c'est un cœur d'enfant. Mais arrêtons de bouder et d'avoir toujours raison. Ça, c'est un enfantillage. Et c'est là que Dieu me demande d'être mature. Non pas d'avoir un cœur de pierre, non pas d'avoir un cœur d'adulte qui ne fait plus confiance, parce que malheureusement, on va là-dedans, nous, des fois. Mais de faire attention à nos enfantillages. Seigneur, aide-moi à identifier les écarts entre d'un côté mon schéma de pensée et d'un côté ta vision des choses. Seigneur, montre-moi à quoi ressemble mon voile. C'est ce que Dieu est en train de transformer en ce moment, moi aussi. Dans quel domaine Dieu est-il en train de vous faire un petit signe? Peut-être des fois depuis longtemps. En train de vous dire, t'as une feuille de salade là, entre les dents depuis quelques semaines. Dans quel domaine Dieu aimerait vous voir devenir mature. Moi, je connais le mien, j'y œuvre, et vous savez, ça dure toute une vie. C'est-à-dire que, on le verra encore, chaque fois qu'on a un apprentissage, il n'y en a pas un autre. Donc ne jugeons pas l'apprentissage des autres, parce qu'on en a chacun des différents. Même Paul parle dans ce texte, dans ses épîtres, il parle de son apprentissage à lui. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Paul, il va parler de quelque chose qu'il a appris. Alors lui, il parle au passé. Moi, je parle au présent. J'ai appris à être heureux de l'état dans lequel je me trouve. Ça, c'est Paul dans Philippiens, quoi. Je vous lis le verset Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans les dénuements, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. Alors moi, ce verset, je le dis au présent. C'est le secret que je suis en train d'apprendre. À être heureux de l'état dans lequel je me trouve. Le contentement. Ça, c'est quelque chose de compliqué. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et quand vous connaissez son histoire de vie à l'apôtre Paul, alors là, on dit respect. Parce que l'apôtre Paul, il a vécu énormément de choses compliquées. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler en toi en ce moment? Il y a forcément quelque chose. Parce que l'œuvre n'est pas terminée tant qu'on est sur terre. Jusqu'à notre dernier souffle, il y aura des choses à transformer. Et il y a autant de réponses que de personnes dans cette salle. Alors, j'aimerais vraiment maintenant vous proposer de réfléchir à tout ce que j'ai essayé de vous transmettre. Et je vais vous proposer un temps de silence. Une minute, c'est pas long. Mais on va essayer de rester à l'écoute de Dieu, dans le silence. Ensemble, une minute, que le Seigneur vraiment vous parle et vous révèle ce morceau de voile qu'il aimerait dévoiler en ce moment. Je vous invite vraiment à oser, cette semaine, les semaines qui viennent, à oser cette pratique du miroir. C'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Vous savez, ce mot « transformé » qui était dans ce verset de 2 Corinthiens 3, ce mot « transformé », il est extrêmement fort. Étymologiquement, il parle de métamorphose. Et la métamorphose, c'est du genre qui est visible, vous voyez. C'est du genre le cocon, la chenille et le papillon. Est-ce qu'autour de vous, les gens disent « Tiens, il y a des choses qui ont changé en toi ?» Ça, c'est un bon indicateur du travail que l'esprit opère avec notre coopération. C'est lorsque, au bout d'un moment, les gens disent bah, « J'ai l'impression que tu t'énerves moins » ou « Je te trouve plus conciliant. J'ai l'impression que c'est un bon indicateur. » Le contraire aussi est un bon indicateur. C'est qu'il y a encore des choses à bosser. Dieu n'en a pas terminé avec moi, il n'en a pas terminé avec vous. Et ce qui est réconfortant avec Dieu, c'est qu'il fait les choses à notre vitesse, à notre chemin. Parfois, il nous bouscule un peu, c'est vrai, à travers certaines épreuves, à travers des grosses épreuves. Mais ce n'était pas le thème de mon message ce matin. En tout cas, et je vais finir avec cette idée, parce qu'elle est quand même essentielle, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Et que Dieu ne nous demande pas de progresser partout en même temps. Un enfant, il commence à marcher. Il met toute son énergie là-dedans. Et après, il parle. Certains parlent avant de marcher. Parce que vous voyez, le cerveau, il ne peut pas tout faire en même temps. Donc un enfant, il marche. Ensuite, il parle. Il apprend à faire des phrases. Il apprend à raisonner. Enfin, c'est pareil avec Dieu. Il ne va pas tout nous demander en même temps. Et si Dieu est en train de travailler en moi aujourd'hui le contentement, eh ben, peut-être que plus tard, il me demandait de travailler le pardon. Peut-être encore un peu plus tard, il va peut-être me demander de travailler l'obéissance. Et peut-être que chez vous, chez mes frères et sœurs, il va travailler autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, parce que souvent on a tendance à dire, oh, mais dis donc, moi le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment être plus joyeux, mais les autres, ils ne sont pas. Ouais, peut-être qu'il travaille juste autre chose en ce moment, en fait. Donc soyons vraiment indulgents et rappelons-nous ça. Dieu nous demande une chose à la fois. Alors, je voudrais vous proposer de chanter ce chant, si le groupe de louanges peut me rejoindre. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Nous tous qui reflétons, en fait, c'est ce verset-là qu'on va chanter. Et la chose que j'aimerais vous proposer, c'est de le chanter en église, c'est-à-dire en étant pleinement conscient de ceux qui sont autour de vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Et quand un corps grandit harmonieusement, c'est beaucoup plus beau. Moi, j'ai un fils qui fait 1m92, ben oui, il fait du 48 de pied. S'il faisait du 35, ce ne serait pas très beau. Et si quelqu'un d'1m50 faisait du 48, ce ne serait pas non plus très beau. Alors, je crois que Dieu nous invite, c'est moi ce que j'ai proposé à notre église de la Prairie, de chercher sa face pour grandir harmonieusement en église et qu'il vous montre, en tant qu'église de Popin, ce qu'il veut transformer ensemble avec vos frères et sœurs pour que vous soyez encore plus lisibles auprès de ceux qui vous entourent. Amen.